compagnie des auteurs ne pourrait avoir lieu sans son équipe indispensable. Anne-Vanessa Prévost, Corinne Amard, Didier Pinault, Gauthier Amiel, Laurence Millet et à la console aujourd'hui, David Federman.
La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à tous, aujourd'hui mercredi, dernier numéro de notre série consacrée à l'écrivain égyptien Albert Kosri à l'occasion de la semaine de la langue française. Né en 1913 au Caire et mort à Paris en 2008, Kosri a été un personnage de Saint-Germain-des-Prés durant près de 60 ans. Il s'est distingué par un mode de vie qui méprisait l'ambition, Frédéric Andreau nous le disait lundi. Si ambition il eut cependant, ce fut celle de rédiger 8 livres sans pareil, dont les personnages sont à la fois des mendiants et des orgueilleux, pour reprendre le titre d'un de ses romans les plus célèbres. Nous en parlions hier en première partie avec l'universitaire David Paris. Hier également, Joëlle Losfeld était avec nous dans ce studio. Elle a été l'éditrice de Kosri et n'a cessé de le défendre. Cette émission, comme toutes les autres d'ailleurs, est d'ores et déjà réécoutable en podcast. Et puis demain, c'est Patrick Chamoiseau que nous aurons le plaisir d'entendre pour une carte blanche, au cours de laquelle il nous parlera des livres qui l'ont fait devenir qui il est. Et aujourd'hui ?
اختار يعني انه يعيش زي الـ زي الفقراء اللي هما بيصحوا الصبح ما عندهمش مسائل ملهاش اي اتصال في الحياة الحقيقة
اي
وفهم انه لما يعيش زي شحاتين هيحس نفسه اول نوبة انه بيعيش بالحياة بيعيش تمام ما عندوش مشاكل.
Aujourd'hui, une émission en deux parties. Alors que l'on vient d'entendre la voix d'Albert Kosri dans sa langue maternelle. En seconde partie, la réalisatrice et photographe Sophie Leys viendra nous parler de l'homme qu'elle a connu, qu'elle a filmé et dont elle a photographié l'univers en Égypte. Puis en première partie, je reçois la romancière et universitaire Aliette Armel qui a eu l'occasion d'interviewer plusieurs fois Kosri et de se pencher sur ses textes. Elle est également auteure d'études sur Michel Léris et sur Duras. Ajoutons qu'elle anime des ateliers d'écriture à Paris et en Bretagne. Mais avant cela, prenons un peu de temps pour écouter Albert.
Un jour, à mon retour de France, c'était dans les années 30, j'ai rencontré un vieil ami, une espèce de sage, à qui j'ai demandé qu'est-ce que je pourrais écrire. Et il m'a dit, si tu ne peux pas décrire ce que tu vois autour de toi ici, ce que tu es incapable d'écrire. C'est à ce moment-là que j'ai regardé autour de moi et que j'ai trouvé qu'il y avait une matière extraordinaire que je n'aurais trouvée nulle part et que je pouvais vraiment exprimer. C'est de là que naît mon désir d'écrire des choses qui se passeraient en Égypte. Et je me suis rendu compte que ça valait vraiment la peine de décrire. Tous les personnages que j'avais connus, toutes les situations dans lesquelles j'ai été mêlé. Il y a un personnage dans Mendiants et orgueilleux qui est un homme tranc, dont la femme est jalouse. Bien, j'ai assisté à cette scène dans la rue, j'étais avec un ami. Ce mendiant se plaçait toujours, ça se passait pendant la guerre, au centre de la ville européenne, et il était sur une espèce de voiturette. Et en faisant un certain mouvement, il arrivait à faire marcher cette petite voiturette. C'était sa femme qui le déposait chaque matin dans la rue. Mais le soir, elle l'emportait sur son épaule. Elle l'emportait dans la ville indigène. Et un soir que je circulais dans la rue avec un ami, j'ai entrevu cette scène grotesque. C'est que sa bonne femme le portait sur son épaule à la façon d'une amphore. Et il y avait entre eux une scène de ménage, mais c'était une scène de jalousie à propos d'une petite ramasseuse de mégots avec qui, enfin, elle prétendait qu'il avait des relations avec cette petite ramasseuse de mégots. Alors c'était assez hallucinant.
Bonjour Aliette Armel.
Bonjour.
C'est une leçon ça que vous pourriez donner dans vos ateliers d'écriture, c'est un conseil que je vous donne, hein, et que vient de nous donner Albert Cossery. Au fond, pour trouver un sujet sur lequel écrire, il suffit de savoir regarder autour de soi.
Mais c'est effectivement un conseil que l'on donne et qu'effectivement il y a des ateliers qu'on va faire dehors pour apprendre le regard, parce que c'est essentiel quand on écrit de regarder autour de soi. Oui,
vous pourriez emmener vos élèves, je sais pas moi, à Saint-Germain-des-Prés, aux Fleurs, par exemple.
Par exemple. Mais il y aurait beaucoup de monde, ça serait un petit peu compliqué.
Oui, mais c'est la Calécosserie, hein.
Ah oui, bien sûr, c'est la Calécosserie. Et c'était vraiment un univers aussi qui, malheureusement, il le disait lui-même, n'existe plus. Et n'existait déjà plus quand il l'a quitté en 2008.
Vous leur parlez de Cosserie parfois, à vos élèves?
Ça n'est pas encore arrivé, mais ça peut tout à fait arriver quand la thématique de l'atelier s'y prête, ou quand, parce qu'effectivement, le choix se fait en fonction des thématiques, et c'est compliqué de trouver une thématique où résonnerait Albert Cossery au contemporain, parce qu'effectivement, à la fois, il est parfaitement de son temps, mais son temps commence malheureusement à s'éloigner un peu. On le voit beaucoup, on le voit à travers ce qu'il propose dans ses écrits et ce que l'on voit autour de soi. À la fois, il était dans la préscience, on l'a dit souvent, des événements du 11 septembre ou d'autres choses.
Pourquoi des événements du 11 septembre ?
Parce qu'il l'avait décrit, un type de catastrophe, ou Katrina, ou des choses comme ça. Il avait anticipé certains événements.
Le terrorisme, en tout cas.
Le terrorisme, oui. On peut dire aussi que quand il décrit les hommes politiques, je voudrais surtout pas être ministre parce que être ministre, enfin bon, je vais pas faire de la politique trop contemporaine.
Surtout mais, pas en ce moment.
Voilà, surtout pas en ce moment, non. Voilà. Donc, mais on peut retrouver des choses chez Cossery. Mais d'un autre côté, c'est vrai que la façon de vivre dans laquelle il se trouvait, on sent bien que elle est quelque part d'un autre monde quand même.
Démodé, dépassé aussi.
Bien, c'est-à-dire, quand on a vécu, moi j'ai pas du tout vécu dans le Saint-Germain-des-Prés des années de l'après-guerre, c'était celui qu'il avait connu, mais disons un peu après, et c'est vrai que c'est pas du tout la même ambiance qui règne maintenant, et qu'il est tellement très difficile de dire à quelqu'un maintenant, oh ben, surtout lis-moi, parce que comme ça j'espère que tu iras pas travailler demain.
Comment vous l'avez connu, vous, Aliette Armel?
Par Joël Losfeld, c'est-à-dire c'est Joël Losfeld qui avait demandé au magazine littéraire qu'on regarde le travail de Cossery qu'elle était en train de rééditer.
Parce que vous avez beaucoup travaillé pour le magazine littéraire, j'ai omis de le dire dans ma présentation.
Oui, ça fait partie des choses que je continue aussi à faire. Et donc, et ça fait plus de 30 ans, oui. Et donc, quand Joël Losfeld avait fait cette proposition, on avait regardé, on avait trouvé ça très intéressant, parce qu'elle avait obtenu de Cossery qu'enfin, il s'ouvre sur la médiatisation, ce qu'il n'avait pas du tout fait antérieurement avec ses autres éditeurs. Ça faisait aussi partie de son mode de vie. Donc, on a pu faire un grand entretien avec lui, évidemment à l'hôtel La Louisiane, évidemment...
Donc là où il vivait.
Voilà, hein. À l'époque, il parlait, il avait été opéré déjà du cancer qu'il a emporté, mais il parlait tout à fait bien. Et donc, ça s'est passé en 1994, si j'ai bonne mémoire.
Alors évidemment, par rapport à vos deux idoles, Duras et Léris, Cossery, c'est pas du tout la même chose, ça n'a même rien à voir d'une certaine façon.
Alors heureusement que mon panthéon est très très large, et là je dois à ces plus de 30 ans au magazine littéraire de justement d'avoir pu découvrir des auteurs que j'aurais effectivement pas découvert s'il n'y avait pas eu cette opportunité de les rencontrer, de les lire. Bon, quand on vous propose des livres que vous ne connaissez pas, ce qui m'est arrivé extrêmement souvent et avec grand bonheur, on découvre des choses comme ça merveilleuses. Et alors, Cossery, en plus, j'ai pu le faire découvrir à d'autres. Et ça, c'était aussi une belle expérience parce que à la suite de cet entretien qui s'était très bien passé. Je m'occupais à l'époque de livres et de lecture publique en Seine-Saint-Denis. Et on avait une opération qui s'appelait Rencontre avec des écrivains d'ailleurs. Il y avait Édouard Glissant, il y avait Nancy Houston, justement. Donc des écrivains qui venaient d'ailleurs, mais qui écrivaient en français. Et j'ai suggéré Albert Cossery. Et Joël Losfeld a obtenu qu'effectivement, il vienne à la bibliothèque de Bondy.
Ah, il a accepté alors de se déplacer.
Et ce qui était extraordinaire, c'est que bon, mes assistants avaient repéré que nulle part ailleurs, l'émission de Canal+, la veille de cette opération à Bondy, parlait d'Albert Costry, le recevait. Et on avait réussi à faire passer un papier, ne me demandez pas par quel miracle, on y était arrivé. Et donc, parce qu'on n'avait pas d'attaché de presse, enfin, c'était un peu... voilà. Et à ce moment-là, à la fin de l'émission, je ne sais plus qui était le présentateur, je crois que c'était Guillaume Durand, je ne sais plus, je ne voudrais pas me tromper de nom, dit à Albert Costry, et l'actualité Albert Costry, bah oui, il y a une actualité, prend son petit papier et dit, donc vous intervenez demain à la bibliothèque de Bondy. Ah non, c'est pas possible. C'est vraiment... c'est où, ça, Bondy? Alors, Albert Costry, oh, moi, je sais pas. Et en fait, on a réussi comme ça à faire parler de Costry à Bondy et de Bondy sur Canal+. C'était, je trouve que ça convenait bien au personnage, en fait.
Je pense que ça devait être Philippe Gildas, à l'époque, qui présentait
peut-être
l'émission.
Alors, vous en savez plus que
avec
moi,
Antoine de Caunes. Voilà. Mais alors, c'est vrai qu'il se passait du coup des choses, quand même, dans la vie d'Albert Costry. C'en est un exemple. Et pourtant, il n'a jamais... au contraire de Duras, par exemple, il n'a jamais parlé de lui, il n'a jamais mis aucune autobiographie dans ses livres, Aliette Armel.
Non, mais dans un sens, il n'a parlé que de lui, comme tous les auteurs. C'est-à-dire qu'en fait, ces personnages à la fois ne sont pas lui et sont lui. Ces personnages qui vivent pour vivre à leur manière, avec comme idée que la vraie vie, c'est pas d'aller au travail, que la vraie vie, ça peut être la réflexion, que mendier est le plus beau métier du monde, à condition de le faire dans certaines conditions et de le faire d'une manière aristocratique, comme certains de ces personnages, pas tous. Eh bien, dans beaucoup de ces personnages, on retrouve son mode de vie. C'est en ça qu'il est extrêmement cohérent. Il a vécu ce qu'il a écrit et écrit ce qu'il a vécu, même s'il vivait à Paris et qu'il écrivait sur le Caire.
Auquel de ces personnages ressemblerait-il le plus, selon vous ?
Je pense que dans chacun de ces livres, il y a des personnages qui sont plus particulièrement lui. Je pense à Goar dans « Mendiants et orgueilleux ». Là, je pense qu'il en est vraiment très proche. Par contre, quand on prend les fainéants des bords du Nil, eh bien, sur ces fainéants, c'est pas lui. Ces hommes qui ne rêvent que d'une chose, c'est de dormir. Surtout pas aller voir le monde, justement. De rester chez soi, de n'être troublé par personne. Il y a un des personnages, mais lui, il rêve que d'aller travailler. Alors ça, c'est pas Costry non plus.
Ah bah alors, on va écouter justement un extrait de ces fainéants dans la vallée fertile, au moment où le jeune Sérague que vous évoquez, hein, c'est celui qui veut travailler, va voir régulièrement le chantier d'une usine, parce qu'il rêve justement d'y entrer un jour.
Dans un vaste terrain en friche, semblable à une contrée sauvage, l'usine inachevée gisait au milieu d'un amas de décombres et d'échafaudages écroulés. C'était une zone étrange et périlleuse, accidentée de fondrières, hostile. Cela ressemblait plutôt à un chantier de démolition. On ne voyait que des pans de murs à moitié construits, toute une architecture à peine éclose, abandonnée aux ronces. Aucun homme n'était visible sur tout le chantier. Les travaux semblaient abandonnés depuis longtemps. Il y avait déjà plus de 6 mois que Sérague n'y avait vu personne travailler. « Écoute, petit, » dit Sérague à l'enfant, « je vais travailler. Je pense que je pourrais faire beaucoup de choses. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je ne sais pas encore, il faut qu'un homme travaille. Ne crois-tu pas ? Tu as une maison où l'on mange et tu veux travailler, » s'exclama l'enfant. « Quelle idée noire !» Ils restèrent un long moment sans se parler. Pourquoi n'irais-tu pas chercher du travail en ville si tu tiens tellement à travailler, reprit l'enfant, car à mon avis cette usine est bonne à servir de latrine. On ne peut pas aller en ville, dit Sérague. C'est trop loin. Ce qu'il y a de bien dans cette usine, vois-tu, c'est qu'elle est tout près de notre maison. Je ne me fatiguerai pas beaucoup pour y aller. Tu te fatigues très vite. Est-ce que tu es malade ? Sérague ne répondit pas. La proximité de l'usine était une excuse à laquelle il s'accrochait par désespoir. Dans le fond, il savait que la construction de l'usine ne serait jamais terminée et que par là même, il ne courait aucun risque d'y travailler.
Vous écoutez la compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes avec Aliette Armel. Vous allez m'arrêter si je me trompe, mais moi, je ne vois pas d'autres écrivains qui se soient emparés à ce point de cette thématique du travail ou au contraire de l'absence de travail, de cette thématique de la paresse. Il y a beaucoup d'écrivains qui parlent du travail, du trop de travail, du travail aliénant. Mais des écrivains qui parlent comme ça de ce que ça signifie que de refuser le travail ou que, comme dans l'extrait qu'on vient d'entendre, de fantasmer autour d'un travail alors que finalement on le rêve, ce n'est pas le travail tel qu'il existe réellement. Est-ce que vous voyez d'autres écrivains qui s'emparent de cette thématique-là ?
Alors non, des écrivains à proprement parler, je n'en vois pas. Pas forcément, d'autant plus que je ne donnerai pas la thématique comme, exactement comme vous venez de la formuler. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas Alexandre le Bienheureux. C'est pas une forme de paresse pour la paresse. Ce mot paresse, c'est pas un mot...
C'est un mot qu'il récusait lui-même.
Voilà. Mmh. C'est un travail intérieur. Ne rien faire, c'est un travail intérieur. Et c'est quelque chose qui permet d'alimenter une forme de réflexion. C'est un mode de vie pour lui extrêmement oriental, avec tous ces gens qui le pratiquent autour de lui quand il est au Caire, et dans lesquels il voit une sagesse qui s'élabore. Il voit un mode de vie qui s'élabore et qui est d'un refus, en ce qui le concerne en tout cas, de ne rien posséder, pour atteindre à une certaine forme de liberté, ou même, on va dire, même à la liberté. C'est la liberté qu'il cherche, c'est l'optimisme même, dit-il, qu'il cherche, parce qu'en fait, à partir du moment où vous n'avez rien, on ne peut rien vous enlever, rien ne peut vous atteindre, sauf la perte de la vie, qui est la chose la plus importante et qui reste pour lui la chose la plus importante jusqu'à la fin de sa vie. Quand dans l'entretien, le dernier au magazine littéraire, parce qu'on en a fait deux, celui de 2005...
Vous êtes retourné le voir au moment de la sortie chez Joël Losfeld, en fait, des œuvres
voilà.
complètes.
Et là, effectivement, il n'avait plus de voix, on communiquait par petit papier, par petit carnet. Et lorsque, je lui ai posé la question, vous êtes... qu'est-ce que ça vous fait d'avoir ces deux volumes d'œuvres complètes? C'est vraiment quelque chose de, pour vous, qu'est-ce que ça représente? Oui, c'est bien, mais la vie, c'est beaucoup plus important. Et le fait de vivre est beaucoup plus important que d'avoir deux volumes, la réunion de ces œuvres en deux volumes.
Mais quand même, parce que dans ce livre, Les fainéants dans la vallée fertile, il y a beaucoup de gens qui dorment.
Oui.
Et on voit bien tout de même que la façon dont il décrit ce sommeil, ça n'est pas un sommeil réparateur, ça n'est pas un sommeil voluptueux, c'est un sommeil qui est comme le petit frère de la mort. C'est un sommeil qui vous engloutit d'une certaine façon. Et donc on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'il y a quand même là un noyau problématique dans ce rapport au rien faire d'Albert Cossery.
Alors là, vous seriez proche de ceux qui dorment chez Duras, quelque part. Toutes ces femmes qui, effectivement, avec leurs difficultés à vivre, dorment beaucoup. Je ne sais pas si vous vous souvenez, de manière récurrente chez Duras, on retrouve ça. Mais c'est la façon de le présenter qui est comme ça. J'ai la sensation que justement ces fainéants dans la vallée fertile, eux, ils sont dans effectivement un sommeil qui est la seule activité qui leur semble valoir la peine et qui est effectivement un refus de la vie extérieure en tout cas. Et qui n'est pas celle de, c'est pas la posture de.
Ça n'est pas pour se protéger à un moment de la vie, pour couper avec la vie.
Si, ça ils le disent. C'est-à-dire que quand le père, puisque dans les fainéants de la vallée fertile, il y a le père qui veut se remarier. Et quand une femme va arriver dans la maison, c'est là où l'angoisse des fils est terrible parce qu'ils vont pas pouvoir continuer à faire ce qu'ils faisaient auparavant. À partir du moment où une femme entre dans la maison, quelque part, c'est une certaine forme de vie qui rentre dans la maison. Et forcément aussi le social. Et ça, plus que... C'est le social qu'il fuit. Tout ce qui est de l'ordre de la sociabilité. Et toute la dialectique sur le travail autour du frère qui veut travailler, c'est qu'effectivement, lui, il cherche pas le travail pour le travail. Il cherche pour une forme d'utilité sociale. C'est un peu comme ça. Là, je reprends des mots d'aujourd'hui qui n'étaient pas du tout ceux de Cossery. Mais c'est un peu ça qu'il exprime. Lui.
Et pourquoi n'y arrive-t-il pas à travailler celui qui veut travailler? Parce que c'est un travail qui n'est pas aliénant. C'est un travail... qui est la base, comme vous le dites, de la sociabilité. Pourquoi Kosri refuse-t-il à son personnage finalement ce qu'il désire, d'après vous ?
Alors, effectivement, il y a deux choses. Il y a Kosri qui a refusé le travail pour lui-même, sauf celui d'écrire une ligne par semaine. Mais ça, c'est
une
déjà...
Une belle ligne, quand même.
Voilà, déjà une position, et celle de son personnage. Son personnage, pourquoi il n'y arrive pas ? C'est tout simple. Il passe son temps à aller voir où en est une usine en travaux, en sachant très bien qu'elle est toujours en travaux. Il le dit. Je sais très bien que de toute façon, elle va être encore en travaux, qu'elle n'ouvrira jamais.
Donc il rêve, il préfère rêver.
Et voilà, il dit, j'ai toujours besoin d'avoir ce rêve de travail. À la fin, il part avec une jeune servante dont il était amoureux. Enfin, et ils partent tous les deux. Enfin, ça y est, il s'est libéré de sa famille qui l'empêchait aussi. Mais on voit bien que c'est pas la famille, parce que dès qu'ils partent, au bout de je ne sais pas si c'est 500 mètres, allez, peut-être on va lui accorder un kilomètre, il s'assoit. Il est trop fatigué. Et puis il regarde passer les camions et tous ceux qui vont vers la ville pour travailler, mais il s'enfonce dans une forme de sommeil.
Alors ça fait penser aussi, par antithèse, à Paul Morand et L'homme pressé. On a l'impression que c'est là exactement l'autre univers. D'abord, il y a d'un côté l'occidental, de l'autre côté l'oriental, d'un côté la machine, le train qui va très vite, de l'autre côté le refus du progrès. Est-ce que cette opposition, vous la voyez aussi ?
Alors effectivement, lui, Albert Kosri l'avait formulé, c'est-à-dire en fait, ce qu'il décrivait, c'était réellement un univers oriental. C'était vraiment ça. Et à la question « Pourquoi n'a-t-il jamais décrit Saint-Germain-des-Prés » alors qu'il sortait tout le temps pour voir ce qui s'y passait et qu'il était tout le temps dans les cafés, eh bien, sans doute, la réponse est telle que ce n'était pas cet univers oriental qui, pour lui, était le plus important et ce qu'il avait à dire, en fait.
Le Café des Miroirs était situé au croisement de deux ruelles. Il occupait la majeure partie de la chaussée de terre battue, interdite aux lourds véhicules, et où seules s'aventuraient les baladeuses des marchands ambulants. D'immenses toiles de tente s'étendaient au-dessus de sa tortueuse terrasse, comme dans un marché couvert. Un nombre impressionnant de miroirs, aux cadres sculptés et recouverts de dorures, étaient accrochés partout, à même les façades des masures environnantes. Le Café des Miroirs était réputé pour son thé vert et l'éclectisme de sa clientèle, composée de charretiers, d'intellectuels et de touristes étrangers assoiffés de couleurs locales. En ce moment, il n'y avait pas beaucoup de monde. Gohar traversa la terrasse, se faufilant entre les tables, à la recherche d'une connaissance. Quelques personnages à l'air important fumaient tranquillement leur pipe à eau, avec le minimum de gestes. D'autres jouaient au tric-trac, en dégustant un verre de thé. De rares éléments de la tribu des ramasseurs de mégots, réveillés avant les autres, se livraient à leur travail avec une insouciance débonnaire. Ils ne craignaient pas la concurrence.
Un extrait pour le plaisir d'une description du Café des Miroirs dans Mendiants et Orgueilleux, lu par Pierre Val, Aliette Armel. La description pour quelqu'un qui s'assoit et qui regarde, c'est quelque chose d'assez naturel. Finalement, on retrouve aussi le mode de vie d'Albert Kosri dans ses romans, dans sa façon d'écrire et de décrire très lentement les choses qui s'y passent, les choses qui s'y passent devant ses yeux.
C'est tout à fait ça. Donc, on a des magnifiques descriptions de lieux, mais aussi de personnages, et on a aussi des merveilleux dialogues. Et quand même, c'est là aussi où tout son art du français pour décrire le Caire se manifeste. C'est-à-dire qu'en fait, il a su trouver une voie, pas seulement dans ses descriptions merveilleuses, mais aussi dans les dialogues, pour parler en français de personnages qui sont égyptiens, sans que jamais cela fasse langage égyptien. Mais d'un autre côté, ça n'est pas non plus langage français. C'est-à-dire qu'en fait, quand on lit ces romans d'Albert Kosri, on est, rien qu'avec la musique de la langue française, au Caire. Et ça, c'est un tour de force extraordinaire.
Oui, d'autant plus qu'il ne parle pas forcément de l'élite cultivée qui parlerait français. Il parle des mendiants, précisément, qui sont vraiment dans l'arabe égyptien. Et c'est d'autant plus un tour de force.
Alors, il a précisé tout de même que les mendiants avec lesquels, en tout cas, il était au Caire, étaient des gens qui avaient volontairement choisi, comme lui ou comme Gohar, son personnage de mendiant orgueilleux, cette condition de mendiant. Et qui, par ailleurs, avait une activité musicale, une activité artistique, une activité de peintre. Donc, il ne fréquentait pas forcément les mendiants qui ne maniaient pas la langue. Et évidemment, pas la langue française. Et évidemment, la langue égyptienne. Et donc, et par ailleurs, c'est vrai que cet arabe, il l'a oublié. L'anglais, il l'a oublié.
Il l'a oublié voilà. Littéralement.
Alors, il disait que quand il retournait en Égypte, il avait, parce qu'il y retournait souvent pour voir sa famille. Sa famille venait le voir, mais disait-il, il parlait français avec ses frères, parce qu'ils avaient tous appris à l'école. Le choix s'était fait pour Albert Cosri à l'école de ce français. Et donc, il parlait en français en France, évidemment en Égypte. Il parlait la langue, mais il avait toujours du mal à retrouver les expressions au départ. C'était plus du tout sa langue, en fait.
Vous diriez, Aliette Armel, qu'il était avant tout un poète, parce que ce n'est pas un romancier de l'action, ce n'est pas un romancier de l'histoire. D'ailleurs, on l'a dit dans les émissions précédentes, il avait plus de considération pour les écrivains que pour les romanciers, c'est-à-dire qu'il préférait qu'on dise quelque chose sur le monde plutôt qu'on raconte une histoire. Est-ce que vous iriez même plus loin ? Est-ce que vous diriez que c'était un poète avant tout ?
Je dirais que c'était un poète, oui, et surtout quelqu'un qui vraiment vivait complètement ce qu'il mettait en œuvre et mettait en œuvre ce qu'il vivait d'une manière, cette poétique, oui, mais alors c'était tant une poétique de la vie, de l'existence que de l'œuvre en fait. Et c'est ça qui est absolument frappant et merveilleux chez cet homme qui était aussi effectivement poète et écrivain.
Mais qui n'était pas un révolutionnaire. Et ça, c'est important de le dire, parce qu'on pourrait croire qu'il serait révolutionnaire, étant donné que, d'une certaine façon, toute sa littérature est insurrectionnelle, puisqu'il dit qu'il n'allait pas travailler. Et pourtant, ça n'est pas un révolutionnaire.
Il avait été, pendant une brève période de sa vie, quand il était jeune au Caire, et donc il avait été, peut-être jusqu'au bout, en tout cas, de ses illusions sur la révolution. Et c'est pour ça qu'ensuite, il se détourne du côté de la dérision. Et que sa façon d'être révolutionnaire, c'est justement de montrer toute la dérision de tous les bords politiques, y compris les bords révolutionnaires.
Alors, il y a même, dans un de ses romans, Les couleurs de l'infamie, il y a le personnage du voleur qui s'appelle Nimer, hein, je sais pas, c'est comme ça qu'on prononce, qui fait l'éloge des policiers. Vous avez ça en tête ? Ça, c'est vraiment pas révolutionnaire, un voleur qui aime les policiers.
Non, mais c'est très Cosri, effectivement. C'est-à-dire que je me souviens plus de ce passage, mais je pense que c'est parce que ces policiers étaient des hommes qui s'étaient comportés justement de telle manière que on pouvait avoir pour eux une certaine considération.
Oui, et aussi parce que finalement, ce voleur pense qu'aucun régime politique ne pourra l'empêcher d'exercer son métier, c'est-à-dire de voler. Finalement.
Voilà, mais ça c'était vraiment, effectivement, Albert Cosri, tout à fait.
Qu'est-ce qu'il aurait pensé, selon vous, des printemps arabes ?
Ah ben, à mon avis, les printemps arabes, ils sont un tout petit peu décrits. Quand, effectivement, le dictateur dit qu'il faut susciter les révoltes qui vont se répandre dans tout. Enfin, il y a vraiment toute une dialectique qui conduit aux révoltes des printemps arabes, oui, dans ces livres, oui.
Mais en même temps, il y a cette idée que faire la révolution, finalement, ça ne sert à rien. Parce que, quoi qu'il arrive, la révolution, elle est intérieure, en fait. C'est un refus intérieur. Donc, changer le système, ça ne sert à rien.
La prise en compte de Cosri, par Cosri, du fait que tous les hommes, effectivement, gardent en eux une part potentielle de corruption, une part d'être un salaud, ce mot figure chez lui. Donc c'est vrai que c'est là où, pour lui, c'est difficile d'envisager un monde meilleur autrement qu'en en participant qu'à sa manière.
« La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Merci beaucoup, Aliette Armel. Je rappelle que vous êtes essayiste, merci, romancière, critique littéraire au magazine littéraire et que vous donnez des ateliers d'écriture à Paris ainsi qu'en Bretagne. Vous avez également fait paraître l'an dernier un ouvrage pratique intitulé « Bientôt la retraite ».
Ah bah oui, c'est quand j'ai préparé ma retraite, je me suis dit que tout ce que j'étais en train de trouver sur cette question et qui m'animait et qui animait beaucoup de discussions méritait d'être mise en livre et Albin Michel l'a trouvé aussi, donc on a fait ça.
Mais c'est très cosserie ça, bientôt la retraite, non?
Si on veut, oui, enfin je suis pas sûre.
Vous avez l'air encore assez active quand même.
Ah oui, 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 je suis pas encore au niveau d'Albert que ce
non, mais
ça viendra.
Faut travailler encore pour y arriver. Dans un instant, on va retrouver la réalisatrice et photographe Sophie Leys, mais tout de suite sur France Culture, c'est le moment d'En Compagnie des Revues, avec vous aujourd'hui, Alexis Broca, du magazine littéraire, dont on parle décidément beaucoup.
Oui,
bonjour,
bonjour
Alexis, vous êtes un lecteur de Cosserie?
Je suis pas un grand lecteur de Cosserie, mais j'ai tout de même lu Mendiant et Orgueilleux, et c'est assez amusant parce que j'ai fait l'autre jour une interview d'un éditeur qui s'appelle Alain Moreau, pour un tout à fait autre sujet, et l'interview se passe bien, c'est un monsieur qui a un peu plus âgé que moi, et on sort.
Il doit être très jeune encore.
Voilà, il est très jeune, et bon, il sévissait dans les années 80, mais on sort et on voit sa bibliothèque, et il y avait un livre sorti, Albert Cosserie, ben, ça a fait durer la conversation un quart d'heure de plus, c'est sûr.
Alors vous venez nous parler du numéro du magazine littéraire, que pourra-t-on lire
on pourra lire beaucoup de choses, hein. On fait notamment un énorme dossier sur le judéo-christianisme, et je crois que Pierre Assouline vous en parlera la semaine prochaine. Pour ma part, là, je vais vous parler de l'entretien que j'ai réalisé avec Jonathan Little. Jonathan Little, vous en souvenez sans doute, hein, il est apparu sur la scène littéraire voilà 11 ans. Son livre Les Bienveillantes avait proprement éclipsé toutes les sorties de d'août 2006. Les Bienveillantes, ça racontait sur un fond très réaliste les péripéties beaucoup moins réalistes d'un bureaucrate nazi, Max O, pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'était un livre très étonnant par ses dimensions multiples. C'était à la fois un polar, il y avait une dimension théorique, il y avait une dimension sadienne. C'était un livre aussi étonnant par la précision de sa documentation et par sa langue torrentielle et par son volume. C'était plus de 700 pages. Et surtout, c'était un livre qui nous faisait regarder en face quelque chose qu'on a en général du mal à voir, à savoir la figure du bourreau, du criminel de masse. Et depuis, Jonathan Little a continué à écrire. Il a écrit un essai, notamment sur la corporéité du fascisme. Il a écrit un reportage sur la ville de Homs assiégée où il se trouvait. Il a écrit un autre reportage sur la Tchétchénie de Ramzan Kadyrov. Et là, il vient de filmer un documentaire qui est proprement magistral sur les enfants soldats qui s'appelle Wrong Elements.
Et c'est pour ça donc que vous l'avez rencontré. De quoi
oui.
S'agit-il avec Wrong Elements?
Wrong Elements, en fait, ce documentaire, ça nous emmène en Afrique, ça nous emmène en Ouganda où depuis 1989, en fait, un mouvement sectaire qui s'appelle la Lord Resistance Army mène une guerre contre le régime. Et son but, c'est d'établir une théocratie sur le territoire d'une ethnie qui s'appelle l'ethnie Acholi. Et pour cela, elle a enlevé plus de 60 000 enfants qui ont été maltraités et conditionnés à commettre des atrocités. Et Little, en fait, a retrouvé deux de ses anciens enfants soldats et deux jeunes filles qui avaient été enlevées par le mouvement. Et le principe de ce documentaire, c'est qu'il les ramène dans les endroits bien où ils ont combattu, où ils ont commis des exactions, où ils ont été enlevés aussi. Et il attend que la mémoire opère. Ça peut être à la fois la mémoire de la langue, quand ils se souviennent et qu'ils s'expriment là-dessus. Et ça peut être aussi la mémoire des corps, et ça peut être extrêmement sidérant quand tout à coup, ces jeunes gens reprennent des attitudes de soldats qui étaient les leurs dans leur jeunesse. Voilà. Je trouve que c'est un film très, très intéressant, dans plein de sens, parce qu'il nous oblige à en fait renoncer aux catégories auxquelles on cède lorsqu'on se penche sur ces questions. Parce que finalement, ces anciens enfants soldats, ils ont été victimes, ils ont été enlevés. Puis ensuite, ils ont été bourreaux, mais on les a obligés à tuer. Ils ont perdu, en quelque sorte, un droit fondamental qui est le droit de ne pas tuer. Et Little, en quelque sorte, poursuit à travers ce documentaire le questionnement appliqué dans Les Bienveillantes. C'est pas le même cas, mais encore une fois, il s'agit d'une réflexion sur ce que nous avons tendance à appeler la monstruosité pour mieux ne pas y penser.
Voilà, donc il y a aussi du cinéma et des documentaires dans le magazine littéraire.
Oui, tout à fait. Quand ils recoupent comme ça la littérature et quand ils entrent en résonance avec le reste d'une œuvre littéraire, évidemment.
Voilà. À la une de votre magazine. Merci Alexis.
Merci Mathieu.
Sophie Leys est cinéaste et photographe, auteur du film Une vie dans la journée d'Albert Cosri, réalisé en 2004, et également auteur du livre de photographie L'Égypte de Cosri, publié chez Joël Losfeld en 2001. Elle est mon deuxième invitée aujourd'hui dans la compagnie des auteurs.
J'écrive en arabe ou en français ou en anglais, c'est pas ça qui compte, c'est l'œil avec lequel vous voyez un peuple. Et surtout, certains détails. Parce que l'écrivain, c'est celui qui sait saisir le détail. J'ai vécu parmi des Arabes. Je me sens aussi arabe que les Arabes. Ce n'est pas une raison parce que j'écris en français que je n'ai rien d'Égyptien. La langue dans laquelle on écrit est une chose. Vous savez, la plupart, par exemple, des écrivains indiens écrivent en anglais. Rabindranath Tagore écrivait en anglais. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas indien. Et donc, vous voyez que le français était presque, pour moi, une langue, la langue du pays. Dans toute la ville, les enseignes étaient écrites en français. Vous pouviez vivre en ne parlant que le français en Égypte. Partout, on vous comprenait.
Bonjour Sophie Leys.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez entendu, en même temps que nous, la voix d'Albert Cosri, mais ce n'est pas la dernière voix que vous lui avez connu, parce que il a perdu la voix à la fin de sa vie. Vous l'avez connu alors qu'il parlait, comme on vient de l'entendre dans l'archive?
Non, je l'ai connu, il ne parlait déjà plus, parce qu'il avait une trachéotomie. Il avait eu un cancer de la gorge, et comme il avait continué à fumer quelques années plus tard, il avait dû subir une trachéotomie. Donc moi, quand je l'ai rencontré, il n'avait déjà plus cette voix-là. Enfin, il n'avait pratiquement plus de voix. Et il me disait, je n'ai jamais autant écrit que depuis que je ne parle plus. Parce qu'au départ, quand on le rencontrait, parfois, il prenait des petits papiers, il inscrivait les réponses aux questions qu'on lui posait, si on ne comprenait pas. Avec le temps, moi, j'avais appris à le comprendre. Donc, même au téléphone, je comprenais ce qu'il me disait.
Et souvent, même, vous assuriez une sorte de traduction, si l'on peut dire, de ce qu'il disait?
Oui, ça m'arrivait, oui. Si les gens venaient à sa rencontre et qu'il voulait bien répondre aux questions qu'on lui posait, je pouvais répondre un peu à sa place.
Mais vous aviez déjà entendu sa voix, évidemment, dans les archives tout de même?
Non, je l'ai découvert plus tard, en fait. Quand j'ai fait le documentaire à propos d'Albert, là, j'ai vu certains films et j'ai découvert sa voix.
C'est vrai que pour le comprendre, il faut comprendre l'Égypte, il faut comprendre son passé, parce que là, il parlait de son rapport aux Français, mais aussi en creux de son rapport à son pays d'origine. Vous avez le sentiment qu'il fallait saisir le Caire, saisir l'Égypte pour le comprendre ?
Sans doute, oui. Moi, je suis partie en Égypte parce qu'il m'a dit d'y aller, en fait. Il m'a dit, voilà.
Ah, c'est lui qui vous a dit d'y aller.
Donc, moi, j'ai rencontré l'Égypte après l'avoir rencontré. Donc, j'étais photographe et il m'a dit, bien, pars en Égypte et peut-être que tu retrouveras l'atmosphère de mes livres et peut-être qu'on pourra faire quelque chose ensemble. Il m'a dit, moi, maintenant, je suis trop âgée pour y aller. J'étais comme déjà un peu fatiguée. En tout cas, fatiguée pour refaire un voyage comme ça. Donc, j'ai lu l'entièreté de son œuvre. Je suis partie. Et je suis partie à la recherche de l'atmosphère de son œuvre. Enfin, de celle qu'il décrit. Et donc, plus l'atmosphère humaine que l'atmosphère. Enfin, que l'Égypte des pharaons. Et, voilà.
Et donc, ça donne ce petit livre publié en 2001 chez Joël Losfeld avec vos photos sur la page de droite et en face le texte d'Albert Cosri. Ce sont des morceaux de phrases que vous avez pris un peu partout dans son œuvre. Est-ce que vous avez d'abord pris les photos ou est-ce que vous avez d'abord sélectionné les passages?
Non, j'ai pris les photos, mais j'avais en tête certains passages. Donc, enfin, en tout cas, j'avais lu ses livres, donc lorsque je déambulais au Caire ou à Luxor, enfin peu importe où en Égypte, J'étais prise par cette atmosphère, donc j'ai essayé de faire des images peut-être qui se rapprochaient de ce qu'il décrivait. Et quand je suis rentrée, j'ai sélectionné certaines photos avec des textes.
Avec lui d'abord,
Oui. Voilà. Ouais. Donc j'ai d'abord fait une sélection de photos et ensemble on a extrait des petites phrases. Parce que ça, avec cet auteur, la particularité de l'auteur, c'est que une phrase peut déjà décrire vraiment une idée, une atmosphère. On n'a pas besoin d'un chapitre de 4 pages pour comprendre ce qu'il veut nous dire. Donc voilà, grâce à son écriture, on a pu faire ce livre et donc extraire juste une phrase ou deux avec une image. Et donc, par exemple, la couverture, il a vu la petite fille, il a dit « c'est Felfel ». Donc il a reconnu en elle l'héroïne d'un de ses livres.
Est-ce qu'il y a certaines photos dont vous avez le sentiment qu'elles reflétaient parfaitement l'atmosphère des livres d'Albert Cossery, et lui vous a dit « non, cette photo, non, ça n'est pas moi ».
Pas vraiment, non. Dans l'ensemble,
vous étiez d'accord.
On était d'accord, oui. Voilà.
C'était difficile de travailler avec lui ?
Difficile, je sais pas. C'est quelqu'un qui travaillait pas beaucoup avec d'autres personnes. Il était comme très solitaire. Mais nous, on s'entendait plutôt bien, donc c'était pas trop difficile. Et surtout, bon, une fois qu'il avait décidé de faire quelque chose avec quelqu'un, il le faisait pleinement. Donc c'était volontiers et avec plaisir.
Alors il y a des enfants, hein, il y en a pas mal dans ce petit livre, mais il n'y a pas que ça, il y a un âne aussi.
Un âne.
Pourquoi ?
Mais c'est l'âne, c'est l'histoire de l'âne qu'on a élu. Voilà,
Vous pouvez nous le raconter ?
Donc, c'est lors des élections, après les élections, on s'était rendu compte qu'on avait élu un âne.
Voilà, ça avait beaucoup amusé.
C'était dénoté. Ça expliquait comment Cossery percevait les personnages politiques.
Donc il y a un âne, bon, il y a aussi des chèvres, il y a un bout de monument quand même un petit peu officiel,
oui.
Il y a un bout de pyramide,
enfin, oui.
Officiel si on veut, disons touristique. Les pyramides, ça l'amusait un petit peu Albert Cossery, parce qu'à Paris, à la fin de sa vie, on en a construit une aussi, pas
oui.
Loin de chez lui.
Mm-hmm. Mais bon, il me disait à propos des pyramides et des monuments, et que... On allait tout le temps en découvrir. Pour lui, ça n'allait pas s'arrêter. Donc, c'était quelque chose qui l'intéressait, bon, moyennement. L'humain l'intéressait plus que le monument.
Ouais. Alors, vous ne nous avez pas vraiment dit quand même comment vous l'aviez rencontré exactement.
Donc, en fait, j'avais lu deux articles à propos de lui dans des magazines. Et alors, j'ai eu envie de lire ses livres. Donc, j'ai acheté plusieurs livres, je les ai lus. Et puis, je trouvais vraiment le personnage intéressant. Et étant donné que dans ses articles, on expliquait la façon dont il vivait, où il se déplaçait, où il se rendait, un matin, enfin une après-midi plutôt, parce que je savais que...
Oui, le matin, il n'y avait aucune chance de le trouver.
Le matin, il n'y avait aucune chance de le rencontrer. Je suis partie à sa rencontre à Saint-Germain. Donc, je me suis rendue au Flore. Et je ne l'ai
pas vu.
Vous
l'avez trouvé dès le premier jour ? Non, pas dès le premier jour.
Si, je l'ai trouvé dès le premier jour, mais pas dès la première minute. Donc je suis rentrée au Flore, je ne l'ai pas vu. Je suis sortie, je me suis promenée un peu à l'écume des pages qui était juste à côté.
La librairie.
Et quand je suis ressortie de la librairie, à ce moment-là, je l'ai croisé et rentré au Flore. Donc je l'ai abordé et je lui ai dit voilà, que je voulais le rencontrer, que j'étais photographe. Tout de suite, il m'a proposé de s'installer à sa table. Et donc, on a pris un café et on est devenus, en fait, amis dès le premier instant, quoi.
Oui.
Je lui ai dit que j'aurais bien aimé faire son portrait, parce qu'à l'époque, je faisais beaucoup de portraits. Et il m'a dit d'accord. Donc, de là, bon, est née comme une grande amitié. On s'est fréquenté pendant pratiquement 8 années.
Et moi, vous l'avez beaucoup fréquenté?
Je le voyais toutes les semaines. Et puis je l'appelais tous les jours, on était vraiment très proches, quoi.
Voilà. Est-ce que c'était quelqu'un qui était constant d'une semaine à une autre, ou est-ce que à chaque fois que vous alliez le voir, vous pouviez vous attendre à le trouver d'une humeur différente ?
Il avait son caractère, c'était quelqu'un... D'abord, il était comme relativement assez âgé, mais il était constant dans ses habitudes, c'était un homme d'habitude. Après, bon, il avait ses humeurs... Mais moi, ce qu'il aimait, il aimait la vie. Donc, il aimait la vie avant tout. Et c'est quelqu'un que j'ai vu plusieurs fois ressusciter, si on peut dire. Oui. Parce qu'il a été, vers la fin de sa vie, comme deux fois plutôt malade. Mais il avait énormément d'énergie et il voulait vivre. Et chaque fois qu'il a été malade, on le retrouvait le lendemain. Enfin, à la terrasse d'un café. Il pouvait être mourant la veille et le lendemain, on le retrouvait à la terrasse d'un café, comme si rien ne s'était passé. Et jusqu'à la fin de ses jours, il a vécu seul dans cet hôtel, sans presque aucune aide, quoi. Donc, il était tellement indépendant et il avait cette soif de vivre.
Mais peut-être que vous l'avez aidé à vivre aussi, parce qu'il aimait beaucoup les femmes, évidemment. Vous aviez moins de 30 ans quand vous l'avez rencontré. Lui, c'était déjà quelqu'un de très âgé. Il aimait beaucoup se promener dans la rue à votre bras, aller dans les cafés à votre bras. Donc vous avez constitué quand même pour cet homme réellement un rayon de soleil. Et Dieu sait qu'il aimait le soleil.
Peut-être, mais en fait, on avait plus un rapport... presque filiale, quoi. Il avait décidé que j'étais comme sa petite fille. Et donc, bon, certes, j'étais une femme, ça lui plaisait, mais on était, voilà, c'était aussi ce rapport. Il n'avait pas d'enfants, et je pense qu'il aimait beaucoup les enfants. En même temps, c'était sa vie. Sa vie, c'était d'être seule. Bon, il était beaucoup sorti, il avait beaucoup dansé, était beaucoup dans
la séduction. Ça lui manquait de plus danser ou pas?
Lui manquait, je sais pas, mais il en parlait de temps en temps. Il disait qu'il sortait, qu'il rencontrait Boris Vian, qu'il jouait de la trompette, et voilà, il avait une vie de nuit que moi j'ai pas connue.
Il est dans une mauvaise foi aussi sur le. Il a poussé l'art du c'était mieux avant, un truc qui est quasi poétique. C'est-à-dire, c'est comme les gens qui disent, le pain, le ciel, c'était mieux avant. Alors les jolies femmes étaient plus jolies quand même. Il trouve un manque de grâce. On se met parfois en terrasse avec lui aux fleurs pour le convaincre, quand même des jolies filles qui passent à quoi. Ça m'enchante physiquement quand il passe du renfrognement, quand il y a un éclair de souvenir d'un sourire chez lui qui réapparaît. Il a une façon de sourire qui est... Ça lui est tellement volé qu'il est presque fâché que ça lui ait échappé, que c'est assez irrésistible. Quand tout à coup, quand on finit, et vous devez y arriver plus que moi, à lui faire échapper un sourire ou un rire, c'est extrêmement... Il revient de très très loin, celui-là, quoi. Et on est très fiers, quoi.
C'est la Compagnie des auteurs sur France Culture. Et vous avez reconnu, évidemment, Édouard Baird, qui est l'un des personnages de votre film, Sophie Lace. Il faut dire que trois ans après avoir publié ce petit livre de photographie avec Albert Cosseri, vous avez décidé d'aller plus loin et de lui consacrer un film. Ce film s'appelle « Une vie ». Dans la journée d'Albert Cosseri, c'est
oui,
ça.
C'est ça.
Ouais. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film?
Mais en fait, d'abord j'ai fait un court métrage à propos d'une idée originale qu'il m'avait donnée.
Donc c'est systématiquement des commandes en fait qui viennent de lui d'une certaine façon. Des idées qui viennent de lui.
C'est des idées, oui. Et puis il avait envie que je fasse des choses. Bon, même s'il prenait pas le travail, il aimait bien que. Voilà, que je fasse quelque chose d'intéressant, si je puis dire.
D'ailleurs, il dit dans la préface du livre, vous ne vous êtes pas mis au travail, mais vous avez courageusement pris l'avion pour aller en Égypte.
Voilà, donc il m'avait donc offert une idée originale, que j'ai intitulée, en fait, pour le scénario, Tourner la page. Donc c'est un court-métrage. Et donc ce court-métrage, je l'ai fait avec le GREC, le groupe de recherche et d'essais cinématographiques. Et comme on s'était très bien entendu, après, il m'est venu l'idée j'avais envie de faire un documentaire sur Albert Cosseri. Et je suis allée les voir, je leur en ai parlé, et comme ils aimaient aussi beaucoup Albert Cosseri, ils m'ont dit, on va essayer de le faire. Comme Albert était déjà très âgé, si je devais commencer à chercher des fonds privés, ça aurait pris beaucoup plus de temps. Et donc eux, ils m'ont tout de suite alloué une subvention et on est parti avec le même chef opérateur avec qui j'avais fait le court métrage. On a décidé de faire ce documentaire. Donc à deux, on partait avec la caméra. J'avais un scénario où j'interviewais des gens qui le connaissaient ou qui connaissaient son œuvre dans des lieux qui rappellent de manière anecdotique l'Égypte.
Donc il y a beaucoup de ses amis. On a entendu Édouard Baird. mais on aurait pu diffuser un extrait de Michel Piccoli, qui était également un ami assez proche de Cosri.
Oui, c'était un ami aussi. C'est-à-dire, il avait des amis hommes, et bien qu'il aimait moins les hommes que les femmes. Donc, dès qu'il, ses amis répondaient tout de suite à son appel. Enfin, s'il y en avait un, il répondait. Les gens qui aiment Albert Cosri répondent tout de suite à l'appel d'Albert, parce que voilà, comme c'est quelqu'un de particulier, de rare, parce que. Il était rare dans son expression, quand même. Il répondait tout de suite.
Parce que les gens l'envient, c'est ça ?
Comment ?
Les gens l'envient, peut-être, d'une certaine manière, d'avoir réussi à faire ce qu'eux-mêmes n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire se détacher ?
L'envie, je ne sais pas. Peut-être une forme d'admiration. Parce que, juste, comme dit Bec Bédé dans le documentaire, on ne peut pas tous le faire. Voilà, on n'a pas la possibilité de faire ce qu'il préconise de faire.
Ah bah si, tout le monde peut le faire, parce que lui-même vivait sans rien, au fond.
Oui, mais ce n'est pas si simple. Quand on grandit dans une société consumériste, on s'en détache. Parce que dès le plus jeune âge, on est soumis à cette société. Donc, lui, il venait quand même d'un pays très différent, où l'esprit est quand même différent. On peut vivre... C'est pas facile, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent différemment en Égypte aussi.
Et vous-même, est-ce que vous avez essayé, du coup, de faire un petit peu
comme
lui ?
Je me suis certainement détachée de pas mal de choses, oui. Peut-être pas complètement, mais quand même, oui. Ça m'a sans doute parlé, comme on dit.
Donc après l'Égypte, c'est comme si vous aviez fait le Paris d'Albert Cosri, parce qu'on le voit beaucoup dans Paris, dans votre film.
Oui.
On le voit... aux fleurs, évidemment, mais on le voit aussi dans les parcs.
Il était au
jardin du Luxembourg.
Oui, dès qu'il pouvait, il aimait marcher. Donc il me disait, moi, tant que je peux marcher, ça va. Donc, il a attendu vraiment 6 mois avant de mourir pour prendre une canne, parce qu'il aimait marcher. Et il avait une forme de dignité, voilà. C'était quelqu'un. Il me disait, il faut être élégant devant la vie, parce que la vie m'a offert énormément de choses. Donc il essayait d'être digne et... Et puis d'être autonome, ça c'était vraiment pour lui très important. Et il aimait marcher, il aimait se balader, pour le temps de regarder, observer.
Frédéric Andreau, qu'on a reçu lundi, écrit que vous le regardiez parfois dormir.
Non, je n'allais pas jusque-là.
Non, c'est faux alors.
Oui.
Et il dit que, en tout cas, vous pouviez passer beaucoup de temps sans rien dire.
Non, mais on parlait, on s'exprimait, même si on parlait pas tout le temps. On avait une forme de communication qui n'était pas forcément verbale, puisque il avait du mal à s'exprimer, mais il y avait toujours quelque chose qui passait. Voilà. Puis quand on était dans des endroits bruyants, c'était difficile de s'exprimer. Mais après, on prenait le temps de se parler. Voilà.
Mais c'est vrai que vous l'appeliez mon cher sphinx ?
Non.
Ah bon, c'est pas vrai ça non plus ?
Non plus, oui.
Et est-ce que c'est vrai alors que vous aimiez chez lui ce que vous avez pu qualifier de côté diva? Est-ce que ça, vous souscrivez à cela?
Je ne peux pas dire que je l'aimais, mais je l'acceptais. Voilà. Il avait un petit, son caractère, ça lui donnait voilà, certaines prestances, entre guillemets. Mais il y avait tellement d'humanité en lui aussi. Que c'était secondaire. C'était secondaire. Ce qui était intéressant, c'était cette forme d'humanité qu'on retrouve dans ses écrits. Dans Mendiant orgueilleux, enfin surtout peut-être au début, plus dans Les hommes oubliés de Dieu.
Et vous relisez souvent ces textes-là encore aujourd'hui ?
Un peu moins maintenant, mais je les relirai de toute façon, parce que je les ai déjà lus plusieurs fois, mais c'est certain que j'y retournerai.
Comment trouvait-il ces costumes qui étaient toujours si extraordinaires ?
Et en fait, il en avait très peu, mais c'était l'art de l'agencement des couleurs, des pochettes et autres, voilà. Mais il avait vraiment très très peu de choses. Il vivait dans une chambre vraiment minuscule, de même pas 20 mètres carrés. Et puis il avait vécu dans des chambres encore plus petites avant.
Il était seul ?
Il était seul.
Et solitaire ?
Il aimait la tranquillité. Il avait besoin de tranquillité pour écrire. Et il me disait, bon, il avait été marié, mais il était resté marié à peu près 2 ans, je crois, m'avait-il dit. Et il m'avait dit, moi, j'aurais pas pu écrire, pas pu travailler à mon œuvre si j'avais dû m'occuper de l'électricité, de ci, de ça. Enfin, il avait besoin de tranquillité, plus que de solitude.
Merci beaucoup, Sophie Leys. Je rappelle que votre film « Une vie dans la journée » d'Albert Cosseri est disponible gratuitement en ligne sur le site du GREC, le groupe de recherche et d'essais cinématographiques. Et puis votre ouvrage « L'Égypte de Cosseri » date de 2001. Il est publié aux éditions Joël Losfeld. Demain, nous quittons l'Égypte et Cosseri pour une émission spéciale. Patrick Chamoiseau sera notre invité. Il évoquera les grands livres qui l'ont fait, ceux qui ont marqué son parcours de lecteur et d'écrivain. Mais avant tout cela, Jacques Bonafé continue de lire des textes de Claude Bert, extraits de son dernier recueil « Il y a des choses que non ».
Bonjour, nous enchaînons sur l'espèce, enfin la célébration de l'espèce dans le livre de Claude Bert, « Il y a des choses que non ». Et célébration de l'espèce, page 25. « Comment peut-on célébrer une espèce aussi nuisible que mon espèce ?» Une espèce oublieuse et avide qui se soumet au pire de l'espèce et anéantit les meilleurs de son espèce pour ensuite les célébrer. Car mon espèce se rachète et achète son humanité en célébrant les victimes de mon espèce et les tessons de lumière qui éclairent la nuit de mon espèce servent de pardon à la cruauté de mon espèce. Il faut être une espèce décervelée comme l'est mon espèce pour croire qu'un dieu tout-puissant puisse absoudre ses crimes contre son espèce. Il faut être déboussolé comme l'est mon espèce pour imaginer qu'un quelconque infini puisse ressembler à celui qu'invente à son image la sauvagerie de mon espèce. Car mon espèce se sert de ses dieux pour mettre à mort les membres de son espèce. Mon espèce peut louer le créateur de toute espèce, puis au sortir de ses prières, crucifier, lapider, égorger en son nom d'autres membres de mon espèce. Comment croire aux dieux de mon espèce qui sont des dieux déféqués par la cervelle détraquée de mon espèce? La fente d'infini qui traverse le nom de Dieu dans mon espèce est ramenée à la mesure de la porcherie de mon espèce. Et aucun dieu ne peut ressusciter l'âme de mon espèce assassinée par mon espèce. Ainsi est mon espèce qu'elle fait endosser à ses dieux la porcherie de mon espèce. Plus loin dans le poème, infinis sont la bêtise et l'orgueil de mon espèce qui sacrifie mon espèce à sa goinfrerie de bien durant sa vie et à sa goinfrerie de survie après la mort. Il faut être abruti comme l'est mon espèce pour détruire la terre, se payer à elle-même un impôt sur la destruction de la terre et continuer de la détruire jusqu'à sa propre mort. Il faut être aveuglé comme l'est mon espèce pour ne pas voir que la terre et l'univers se fichent de mon espèce. Mais l'immensité de la prétention et de l'imbécilité de mon espèce est le seul infini accessible à mon espèce. Mon espèce fait de sa vie le croupion de la mort. Mon espèce essuie son avenir sur le paillasson de la mort. Toute la vitalité de mon espèce se consume à remplir la panse de la mort, à combler le trou du ventre de la mort par la mort. Et la mort déborde dans la vie de mon espèce, recouvre la vie de mon espèce, enfouit sous elle la vie de mon espèce. La mort jouit dans mon espèce, ainsi célébrer mon espèce revient à célébrer la mort. Il y a des choses que non. Le cœur de mon espèce est le charnier métaphysique de la mort. Mais dans son cœur, mon espèce ne cesse de pleurer sa mort et ses morts. Telle est mon espèce qu'elle pleure les victimes et les morts dont elle remplit l'histoire de mon espèce. Telle est mon espèce qu'elle célèbre la moelle de la vie dans l'os de la mort. Ma pauvre espèce souffre de la maladie et de la douleur de la mort. Ma malheureuse espèce, affolée par la mort, se jette follement au cou de la mort. Ma misérable espèce se meurt d'avoir nommé la mort.
Jacques Bonafé, restez avec nous. Très bon après-midi à tous.